Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Nous vous souhaitons la bienvenue pour cette émission. Nous sommes entre Noël et Nouvel An et donc nous sommes encore dans l'esprit de Noël. Alors c'est pourquoi j'ai invité Sylvie Valette. Bonsoir Sylvie Valette.
Bonsoir Christiane Hervault.
Nous nous connaissons bien et nous vous connaissons puisque vous êtes la trésorière de notre association Radio Alliance Plus et que vous travaillez avec l'ECA et donc avec plusieurs personnes qui nous écoutent en ce moment. Et puis vous avez plein de savoir-faire, vous êtes prédicatrice aussi et conteuse. Voilà, donc quelques-uns ont peut-être déjà eu l'occasion de vous entendre dire des contes, pas moi, pas encore, et donc c'était l'occasion pour cette fois-ci de vous entendre dire un conte et puis de vous interroger sur ce qu'est le conte pour vous. Pourquoi est-ce que vous aimez les contes? Qu'est-ce que ça vous donne?
Ça remonte très loin. Mais je vais vous donner une anecdote. Quand j'étais enfant, j'étais la sixième d'une famille de six, et donc un peu chouchoutée. Et tous les soirs, on me racontait une histoire. Tous les soirs. Après, il y avait la prière, mais d'abord, il y avait l'histoire. Et je la réclamais, et même quand j'avais 10 ans, je réclamais mon histoire. Et un soir, mon père dit « Et quand tu auras 20 ans, tu demanderas encore qu'on te raconte une histoire ?» Et c'était ma marraine qui était là ce soir-là et elle lui a dit « Quand elle aura 20 ans, ça en sera d'autres qui lui raconteront des histoires. » Voilà. Je pense que c'est de cette époque-là que me vient le plaisir du conte et j'ai connu un groupe de conteurs et conteuses qui comptent la Bible. La Bible n'est pas un conte, mais elle se raconte. Ça, c'est la signature de ce groupe, Conter la Bible. Et pendant plusieurs années, j'ai suivi une fois par mois les formations de conteuses. Alors, je n'ai pas énormément compté parce que le groupe, pour diverses raisons, a dû arrêter ce travail. Mais j'en ai gardé le plaisir. Et c'est une approche, pour une prédicatrice, c'est une approche de la Bible différente. Mais selon les circonstances, j'aime bien utiliser le conte pour des textes qui sont parfois un peu difficiles à entendre peut-être. Non pas que les mots soient plus compliqués dans la Bible, mais quand c'est un peu dur, parfois on trouve même dans le Nouveau Testament, c'est un peu dur.
Alors, vous comptez surtout des histoires bibliques ou bien est-ce que vous comptez aussi des contes profanes, disons? Parce que les contes profanes, comme les grands contes merveilleux, ils ont une portée aussi universelle. Ils ont vraiment, je dirais, un message aussi à délivrer, tout comme il y a dans la Bible, mais ça se rejoint. Enfin, pour moi, ça se rejoint en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui. Eh bien, j'aime beaucoup parce que j'ai entendu des contes de tous les pays. Gilgamesh, par exemple. Mais je ne sais pas encore faire. Voilà. Je ne me suis pas lancée là-dedans. Voilà.
Ah oui, ah, il faudrait parce que c'est vraiment, moi j'ai aussi un peu pratiqué le conte et il faut des occasions de conter comme vous dites parce que c'est vrai que on peut nous solliciter mais il faut assez des fois favoriser des moments où on peut raconter Parce que c'est tellement agréable. Moi, j'ai jamais entendu beaucoup de personnes qui me disaient, oh non, je n'aime pas du tout ça. Souvent, c'est vraiment, ça fait du bien aux personnes qui écoutent, que ce soit les contes bibliques, mais les contes profanes ont une très belle portée aussi. Et donc, j'ai plutôt fait l'inverse. J'ai commencé par les contes profanes et je suis allée vers le conte biblique aussi.
Voilà.
Et donc, voilà. Et il faut continuer tout. Il faut un peu s'entretenir avec
Mais
ça. Ouais. Ouais.
oui.
Il y a des conteuses à Montpellier, je crois, qui continuent. C'est peut-être celle-là que vous aviez rencontrée aussi. Il y a un groupe à
Alors, j'ai
Montpellier.
rejoint Montpellier quand Tornac, puisqu'avant c'était le groupe de Tornac, quand Tornac a arrêté, j'ai rejoint Montpellier et puis mes absences, ma vie un petit peu mouvementée géographiquement, n'ont pas permis de continuer avec Montpellier.
Oui, des fois
Là, je
c'est
vais.
un peu compliqué de pouvoir se retrouver quand on
Ouais.
est un peu les uns et les autres dispersés et tenir aussi pour le faire. Et on n'est pas, les gens ne sont pas forcément des professionnels, mais l'amour du conte, ça nous porte en avant. Donc voilà. Donc c'est ce qu'on va vous proposer ce soir, chers auditeurs et auditrices. Je dis ce soir parce que nous sommes dans la soirée avec Sylvie, toutes les deux en visio. Nous voyons un peu de loin, chacune dans notre coin. Mais voilà, nous avons eu envie de vous faire participer à notre amour des contes, le mien et le sien. Ce soir. Et donc, elle va lire un conte tout à l'heure qui s'appelle La Nuit des Merveilles. Mais avant d'écouter ce conte, moi, je vous propose d'écouter un peu de musique. Et je vous propose d'entendre Ô viens Emmanuel, qui est joué au piano par Evert van de Pol, que vous connaissez bien, que vous avez déjà entendu à Nîmes, je pense, à l'oratoire ou ailleurs, ou joué à l'orgue. Et ils ne sont plus dans notre pays, Jana et Evert van de Pol. Ils sont dans leur pays, aux Pays-Bas, maintenant. Mais donc, nous allons écouter Evert au piano, jouer Ô viens Emmanuel. Et puis, nous nous retrouvons pour entendre la lecture du conte par Sylvie Valette.
Mais qu'est-ce qui se passe dehors? J'étais bien sur ma paillasse. Après la journée passée au champ, je dormais profondément. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? J'entendais pas, en ombre. Et puis des gens qui parlent. Venant par ce chemin, ce ne peut être que les bergers qui passent. devant ma masure en venant des pâturages où ils gardent les troupeaux. Mais qu'est-ce qu'ils font là? C'est le milieu de la nuit. Bon, il faut que je me lève pour voir ça. J'ouvre ma porte et les voilà. Ils sont en train de passer. Ils ne me voient pas. Personne ne regarde jamais ma masure. On ne s'intéresse à moi que quand on a besoin d'un coup de main. Enfin, c'est toujours mieux que de se faire moquer comme quand j'étais petit. J'ai toujours aimé les choses simples, moi. J'ai toujours aimé regarder le bon côté des choses. C'est comme ça. Mais tout le monde ne le comprend pas. Et quand on ne comprend pas, on se moque. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le Sauveur est aujourd'hui ici à Bethléem. À Bethléem? Mais pourquoi? Comment? Bon, c'est vrai que c'est à Bethléem que le prophète Michée a dit que le Messie viendrait. Et c'est vrai aussi qu'il y a plein de monde ces temps-ci à Bethléem. Toutes les personnes qui descendent de David doivent se faire recenser ici, même si normalement elles habitent très loin d'ici. C'est qu'il fallait bien trouver un moyen de n'oublier personne. Alors, les autorités romaines ont dit qu'il fallait que chacun retourne dans la ville d'origine de sa famille. C'est pour ça que les maisons sont pleines, l'hôtellerie aussi, pleine à craquer la ville de Bethléem. Mais alors, comment on va le trouver, ce sauveur? Je continue à écouter la conversation des bergers et discrètement, je les suis d'un peu loin. Non, parce que, si le Messie est là aujourd'hui, pas question que je rate ça. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il cherche un bébé nouveau-né et couché dans une mangeoire. Parce que le Sauveur, en fait, il vient de naître. Ah ben, du coup, pour les grands discours et les appels à prendre les armes contre les Romains, il faudra attendre un peu. Bon alors, ce bébé dans une mangeoire, où est-ce qu'il se cache? Parce que des mangeoires, il y en a un certain nombre dans une ville comme Bethléem. Les bergers marchent et je les suis. Et en marchant, je réfléchis. On réfléchit souvent mieux en marchant. Vous avez remarqué? Bon. Si ce fameux sauveur est un bébé, c'est qu'il ne va pas rassembler des armées. Et pourtant, j'entends qu'un ange du Seigneur leur est apparu et les a enveloppés de lumière pour leur annoncer la nouvelle. Ô berger! C'est donc que c'est important dès maintenant la venue du sauveur. Même comme un bébé à la merci de n'importe quoi, n'importe qui, il est le sauveur. Ah, voilà une ferme devant laquelle il y a déjà du monde rassemblé. Ça doit être là. Oui, il y a un bébé dans la mangeoire, tout petit, avec ses parents à côté, et les bergers s'approchent. Et voilà qu'ils n'ont plus rien à dire. Il faut dire, ça n'est pas ce qu'on attendait comme sauveur, un bébé sans défense. Et pourtant, au-dessus de la crèche, l'étoile du berger brille. On dirait qu'elle veut signaler au monde entier qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là. Toute cette histoire de lumière, la lumière qui a entouré les bergers quand l'ange est venu leur parler, cette étoile qui sert d'indicateur, ça me rappelle. Oui, ça me rappelle une prophétie du prophète Ésaïe. Debout, Jérusalem, brille de mille feux, car la lumière se lève pour toi, la gloire du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. L'obscurité couvre la terre, la nuit enveloppe les peuples, mais toi, le Seigneur t'éclaire comme le soleil qui se lève, au-dessus de toi apparaît sa présence lumineuse. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est la nuit, et pourtant, la lumière du Seigneur nous éclaire. Tiens, voilà un groupe qui arrive. Il doit venir de loin. Il y a des chameaux. Les chefs du groupe laissent les chameaux aux serviteurs et ils prennent des paquets avant de s'approcher, eux aussi, du bébé. On était là avant, mais ils ont l'air d'être des gens importants. Alors, on leur fait place. Oui, d'après leurs vêtements, ce sont des mages, des sages venus de loin et riches. Non seulement riches pour pouvoir faire un tel voyage, mais voilà qu'ils apportent des cadeaux, cadeaux de roi, de l'or, de la myrrhe, de l'encens. Je n'ai jamais vu autant de richesses rassemblées au même endroit. Mais en fait, c'est la suite de la prophétie d'Ésaïe. Les nations vont marcher vers ta lumière et les rois vers la clarté de ton lever. Porte tes regards sur les alentours et vois tous. Ils se rassemblent, ils viennent vers toi, tes fils vont arriver du lointain et tes filles sont tenues solidement sur la hanche. Alors, tu verras, tu seras rayonnante, ton cœur frémira et se dilatera, car vers toi sera détournée l'opulence des mers. La fortune des nations viendra jusqu'à toi. Un afflux de chameaux te couvrira, de tout jeunes chameaux de Madian et d'Elpha. Tous les gens de Saba viendront, ils apporteront de l'or et de l'encens, et se feront les messagers des louanges du Seigneur. La prophétie se réalise et j'en suis témoin. Jamais je n'aurais imaginé voir ça dans ma vie. Vous savez comment c'est les prophéties. On en parle tous les samedis à la synagogue, on les lit, on les relit, on essaie de comprendre ce qu'elles veulent dire. Mais en fait, on ne croit pas complètement que ça arrivera un jour. Et là, ça m'arrive à moi. Enfin, à tout le monde aussi, hein? Oui, mais à moi. Elle a bien dit, la prophétie, quel bonheur! Mon cœur frémit, il se dilate. La terre entière n'est pas assez grande pour contenir ce qui se passe aujourd'hui à Bethléem. Et pourtant, grâce à ces mages qui sont venus de loin, la terre entière est représentée ici à Bethléem. Parce que Si un petit bébé est notre sauveur, ça veut dire qu'il va se passer de grandes choses. La puissance de Dieu, celle que nous attendons toujours comme un tremblement de terre, un ouragan, elle est venue dans un bébé. C'est comme l'histoire d'Élie. Il s'attendait à tout, Élie, mais certainement pas à ce que la présence de Dieu se manifeste dans un souffle de silence. Quel bonheur! Je suis ravie. Déjà que les gens ont tendance à m'appeler comme ça, le ravi, parce que je vois toujours le bon côté des choses. Mais là, j'ai vraiment des raisons d'être ravie. Ce bébé, il est le miracle de la présence de Dieu au milieu de nous, son peuple. Et si déjà tout ce monde, les gens de Bethléem, les bergers, les mages, sont venus, c'est sûr, l'histoire ne va pas s'arrêter là. D'ailleurs, c'est ce que dit la prophétie d'Ésaïe. Autour de la lumière de cette naissance, toutes et tous, bêtes et gens se rassemblent, et ça va continuer au fil des générations, d'abord les adultes, mais ensuite leurs fils et leurs filles, d'abord les chameaux, mais ensuite les jeunes chameaux des générations suivantes, et pareil pour les troupeaux. Et pourtant, cette naissance, comme toutes les naissances, c'est une joie immense et en même temps un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'il va lui arriver à ce bébé? Qu'est-ce qu'il fera quand il sera grand? Tant de questions et d'inquiétudes possibles pour ses parents. Mais déjà, il est le sauveur, parce qu'au lieu de continuer à essayer d'atteindre la présence de Dieu en allant au temple de Jérusalem faire plein de sacrifices, nous pouvons profiter de la présence de Dieu au milieu de nous dans ce petit enfant. Vous avez compris? Au lieu d'essayer d'atteindre Dieu, c'est Dieu qui vient à nous. Pour nous, quelle merveille, quel ravissement. Ce soir, cette nuit, je vais faire comme les bergers, comme les mages. Je vais rester là, à m'émerveiller de la présence de Dieu, présence gratuite, donnée sans effort de ma part. Mais demain, quand le petit sera reparti avec ses parents, oui, c'est Joseph et Marie, ses parents. Ils n'habitent pas ici, ils sont installés à Nazareth en Galilée. Quand le petit sera reparti avec ses parents, je vais profiter de cette merveille de la présence gratuite de Dieu. Je vais faire profiter à toutes les personnes que je rencontrerai. Parce que pour que les générations continuent à se rassembler autour de la présence de Dieu, il faut que quelqu'un leur dise qu'elle est déjà là. Il faut que quelqu'un leur raconte. Ce soir, cette nuit, je m'émerveille et je ne peux pas m'empêcher de garder les bras levés au ciel en remerciement pour ce miracle. Mais demain, je vais me retrousser les manches et je vais aller partager cette bonne nouvelle. Un sauveur nous est né. La présence de Dieu nous est donnée. Nous n'avons plus à chercher à l'obtenir à coups de sacrifice. Elle nous est donnée. Et je suis bien sûre que c'est aussi ce que raconteront les mages en repartant dans leur pays lointain. Oh, je sais bien que les gens à qui je raconterai ça risquent de me trouver bizarre. Mais après tout, toute ma vie, on m'a trouvé bizarre. Au moins maintenant, j'ai une bonne raison de voir le bon côté des choses. Le bon côté des choses, c'est ce miracle du don de Dieu. Je reste le ravi, mais maintenant, j'en suis fière. Je suis le ravi, celui qui a pu vivre l'émerveillement, le ravissement en présence du Sauveur du monde. Et tant que je le pourrai, je partagerai cette bonne nouvelle.
Vous écoutez Radio Alliance Plus et vous venez d'entendre un conte qui s'intitule La Nuit des Merveilles, qui a été écrit par Isabelle Alves, qui est pasteur, et qui vient d'être lu par Sylvie Valette, conteuse. Merci à elle, merci Sylvie pour cette
Merci.
lecture du conte qui nous parle du ravissement et du ravi. Et comment nous pouvons l'être, comment nous pouvons vivre ces merveilles dont nous sommes l'objet. Donc, nous venons aussi d'écouter une musique, Les anges dans nos campagnes, à la suite de la lecture de Sylvie. Et bientôt, il ne nous restera plus qu'à nous dire au revoir pour et nous souhaiter. Que nous souhaiter pour cette fin d'année d'être aussi
Le
émerveillé?
début beaucoup de joie,
Beaucoup
beaucoup
de joie, voilà.
d'émerveillement.
Oui.
Oui.
Et on le sent dans ce conte et on le sent par votre lecture, Sylvie Valette. Alors merci beaucoup de nous avoir transportés dans cette joie et dans cette merveille ce soir, et puis de vous avoir écouté, et ça nous donne envie de continuer à écouter des contes encore et encore, à chaque fois que nous pourrons, et nous aurons sans doute l'occasion encore de vous entendre une fois de plus, ici ou là, j'en suis sûre. Alors voilà, une bonne soirée à vous, une bonne semaine à vous aussi. Nous allons vers la nouvelle année, et la semaine prochaine, nous aurons l'occasion de nous la souhaiter aux uns et aux autres par l'intermédiaire de Radio Alliance Plus. Au
D'accord.
revoir, Sylvie.
Au revoir, Christiane.
Merci beaucoup.
Et merci.